avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Et bonjour, salut tout le monde, salut, 10h01, ouais exactement, bon Reg, j'ai encore pris trop de temps dans son show, non, on fait des farces, Reg la planche avec Jeff Fortin et c'était Thomas Gauthier ce matin qui était là pour vous accompagner dans votre réveil, votre premier café, Maxime Larouche qui est allé voir Olivia Rodrigo, je vous le jure, du côté de Montréal, il sera de retour demain avant le congé de 4 jours, ouais, semaine de 4 jours, congé de 4 jours, semaine de 4 jours. Fait que je pense qu'on est pas mal dans une belle période pour ceux qui ont peut-être l'indice du bonheur un peu diminué au travail là, ces jours-ci. Mais en même temps, c'est une fin de semaine où, bon, assurément qu'il y a quelque chose de religieux encore qui perdure pour certaines personnes. Mais c'est rassembleur hein, avec la famille, des fois avec les amis aussi. Qu'est-ce que vous faites pendant Pâques de votre côté? Est-ce qu'il y a une chasse au coco ou c'est juste on échange des chocolats? Est-ce que ça se fait encore dans votre famille? Moi, quand j'étais jeune, c'était dans mes meilleures fêtes. Si j'avais à les classer là, de 1 à 5, assurément que c'était dans le top 3 parce que c'était justement en famille. On avait des brunchs, on se voyait tout le monde ensemble. Puis bon, bien sûr, il y avait du chocolat. Puis il y avait comme la petite surprise matinale du chemin avec les petits cocos en papier d'aluminium. Là. Bleu, rose, si je ne me trompe pas, il y en a des verts aussi. Après ça, je ne vais pas aller plus loin. Mais j'aimais ça me réveiller avec ce petit chemin-là, avec mon nom au début, la carotte un peu grignotée, puis l'indice au bout de la rangée de chocolat qui va me donner droit à aller chercher où est mon gros chocolat. Il y avait quelque chose de vraiment le fun dans la fin de semaine de Pâques. Je sais que pour plusieurs, c'est encore très religieux. Pour nous, ce ne l'était pas nécessairement. Pas ma mère qui nous obligeait à écouter Jésus sur la croix, là, puis sa résurrection, puis tout, là, pendant trop longtemps. Jésus de Nazareth, extrêmement terrorisant pour les enfants, disons-le. Puis on n'a pas fait de remake, hein, fait que ça reste encore plus terrorisant par les images. Ça ne sera pas la terreur aujourd'hui. Dans l'heure CV, merci beaucoup d'avoir choisi l'émission. Je m'excuse pour ma petite voix enrouillée. Sera replacée après le long week-end, j'ose croire. Vous êtes la bienvenue dans cette émission d'une heure qui s'appelle l'heure CV parce que mon nom est Pascal CV et j'adore être avec vous. Aujourd'hui, entre autres, on va aller jaser de des gens qui surveillent vos appareils. Pourquoi? Parce que après TikTok, maintenant, Temu est en train de voler vos données personnelles. On va l'explorer tout ça avec Patrick. Ben oui, vous le connaissez, Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique. On le reçoit quand il y a des nouvelles de ce type-là. Puis, justement, c'est plus complexe, c'est plus important qu'on pense. C'est, souvent, on fait, ben, c'est pas grave, on a volé mes données 150 fois. Oui, mais il y a toujours une technicalité de plus selon les applications, selon qui est derrière également. Les textos entrent. Bien des gens font des salutations. Je vous remercie. C'est toujours un bonheur. Moi, je travaille toute seule pendant cette heure CV-là, autant à la console, à vous répondre sur Twitch. Twitch, c'est quoi? Des caméras en studio. twitch.tv/PLVD. /FM et au 88-971-1021 en plus de faire les entrevues et autres. Donc, quand je sais que vous êtes là puis que vous faites une petite salutation, bien, c'est mon gagne-pain, bien plus que mon salaire. Alors, je sais qu'on est une belle petite gang, puis c'est ça. Bon, vous avez commencé à faire vos salutations, puis vous avez mentionné quelque chose d'extrêmement important. La fin de semaine de 4 jours qu'on s'apprête à vivre, il y a aussi tout ce qui est cabane à sucre, tendez sucre, les petits cornets de sucre. Oui, ça, c'est une grande passion. Et je pense que c'est à ne pas négliger. Si jamais ça fait des années que vous en avez mangé, allez encourager nos acériculteurs, puis surtout vous gâter les papilles. Ça vaut plus que la peine. C'est vraiment un beau réconfort. Puis ça a été une belle saison jusqu'à maintenant là, pour les acériculteurs. Ils travaillent très, très fort. Alors, encourageons nos gens d'ici. Je vois que dans les nouvelles en continu depuis ce matin, on parle encore de l'effondrement du pont du côté de Baltimore. Il n'y a rien de surprenant dans l'enquête jusqu'à maintenant. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses à déterminer. Peu importe où l'enquête va nous mener, on va la suivre, on va s'assurer que les responsables soient punis. C'est gros quand même, parce que la boîte noire du bateau a été récupérée. Ça a été très rapide. Puis justement, elle est analysée. Mais on parle de punition là, pour les fautifs. Les premières victimes ont aussi été identifiées. Je vous rappelle qu'hier, leur CV, c'était une émission spéciale en relation avec cette tragédie-là. On a parlé à un ancien professeur en physique qui nous a expliqué pourquoi ça a tombé comme un jeu de cartes. Et aussi, on a parlé à quelqu'un de chez Dolbec pour l'import-export, pour les conteneurs. Savoir qu'est-ce qui va arriver aussi parce que les bateaux ne peuvent plus passer par là. Puis c'est un port extrêmement important. Puis ça peut miner aussi de notre côté la commercialisation. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ces deux experts-là, si vous voulez le reprendre. C'est sur le site de blvd.fm dans la section leur CV. OK, on part ça tranquillement ensemble. Les trois accords volent à l'étalage dans vos oreilles. Puis j'aime ça vous dire que le grand concours du printemps a été lancé et qu'à travers toute la programmation, il y a des indices pour pouvoir être finaliste et peut-être gagnant-gagnante. Donc, vous faites très bien d'écouter Boulevard 102.1 du matin au soir.
RCV avec Pascal CV.
Un auditeur, Carl, qui vous salue, qui nous salue en direct de la Californie. Il a choisi Boulevard 102.1 pour passer le temps. Ouais, il est un peu plus au chaud que nous, hein, parce qu'à l'extérieur, nous, ben, c'est de la pluie, ce sont des nuages aussi. 2 degrés, mais ça pourrait monter jusqu'à 6. Wow, quelle journée chaude à Québec. On fait des blagues, mais ça reste le printemps. Plus intermittente pour toute la journée ce soir et cette nuit. 4 degrés comme maximum. Toujours des possibilités d'averses à 40% sur le territoire. Demain, jeudi, 7 degrés. Possibilité d'averse 40% toujours. Dans la nuit, 0 degré. Vendredi, samedi, ce sont des nuages qui sont prévus à la météo avec une température pour vendredi de 7 degrés, samedi 2 degrés. Et dimanche, lundi, pour nos congés, Pascal, on aura du soleil. Alternant soleil-nuage avec des températures allant jusqu'à 6 degrés. On parlait du fameux film de Jésus de Nazareth. Il y a un auditeur qui dit il est sur Tubi, T-U-B-I. Si quelqu'un veut se traumatiser, je trouve que c'est la meilleure phrase. Quelqu'un qui ajoute, j'aime mieux la passion, il y a plus de sang. Non, mais c'est vraiment terrorisant, ces films-là. Ne faites pas écouter ça à vos enfants par obligation, à moins que, bon, justement, ça soit dans vos traditions personnelles là, de famille, là, mais sinon, changez de poste. Pour le proverbe de la journée, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Je l'adore. C'est sûr qu'on connaît tous quelqu'un. Malheureusement, on ne commencera pas à donner des noms, à moins que vous souhaitiez le faire du côté du 88-971-1021 de façon anonyme. Encore là, je ne vais pas vous lire en ondes, vous comprendrez. Là. On n'ira pas là. Et TikTok, vous savez, ce sont... c'est une entreprise chinoise qui est derrière, qui, bon, a été pointée du doigt tellement que bien des politiciens ont lâché TikTok parce qu'il y aurait vol de données, il y aurait espionnage et autres. Mais maintenant, Temu, le site qui nous permet d'acheter des genres de bols en bois à 2$, mais qui finalement va aller récolter des données et se payer de cette manière-là, et on ne sait pas trop comment ils vont faire, serait aussi dans l'espionnage. Avez-vous déjà acheté sur ce site-là? Je sais qu'à un moment donné, c'était vraiment, vraiment, vraiment populaire. Les gens trouvaient que c'était des aubaines incroyables et peut-être qu'ils sont tombés justement dans le bateau de Temu puis qu'ils ont décidé d'en acheter des petits bols en bois à 2$ qui arrivent 3 semaines plus tard. Là. Mais il y a des problématiques avec ça. Et justement, notre expert Patrick Mathieu va nous en parler dans quelques instants. Restez là. C'est vraiment important de savoir au moins pourquoi c'est problématique. Parce que j'ai l'impression qu'on commence à se dire on s'en fout, nos données sont déjà toutes volées. Quelqu'un qui dit Temu, ben oui, ça marche en mot à dit, effectivement. Puis là, le problème, ils réussissent par l'attractivité de leurs offres ou encore de leurs réseaux sociaux comme TikTok, à nous mettre dans une loupe qu'on devient finalement accro ou encore qu'on se dit « Ouais, je comprends, au pire, ils voleront mes données, mais je ne peux pas passer à côté de bon la bois à 2$. » Mais il est là, elle a la trappe. Puis à quel point on est capable de rester, entre parenthèses, fort là-dedans. Puis à quel point c'est problématique ou non. Patrick va nous éclairer sur tout ça.
C'est payant d'écouter.
J'avais hâte d'avoir cette conversation-là avec lui parce que c'est comme problématique. Ces temps-ci, il y a une grosse polémique aux États-Unis autour de TikTok. Puis ce matin, ben pas juste TikTok qui fait jaser, Temu aussi. Le fameux site Internet où tu achètes plein de petites gogosses de cochonneries à vraiment pas cher. Puis tu as l'impression finalement que tu as fait une affaire de roi. Tu peux en acheter pour meubler ta maison au complet à de faibles coûts. Mais bon, souvent, c'est de la cochonnerie. Comme dit Hélène, une auditrice en plus, c'est une catastrophe environnementale. Ça alimente le besoin de plusieurs d'acheter plein de choses qui vont se ramasser à la poubelle. Genre, anyway, ça n'a pas coûté cher. Tu ne peux pas acheter là-dessus puis après dire qu'il faut sauver l'environnement. C'est son commentaire. Puis au-delà de ça, c'est une entreprise chinoise. Puis là, on ne veut pas démoniser les Chinois. Moi, j'entends encore Jean-François Lépine dire que le peuple et le gouvernement, c'est deux choses complètement différentes. Les mesures gouvernementales et les citoyens... deux choses complètement différentes. Un peuple qui se tient malgré tout, mais dans une rigidité aussi des leaders, mais il faut parler de la commercialisation, il faut parler de leur stratégie d'enquête, leur stratégie aussi d'espionnage, parce que ça existe, on n'a plus besoin de faire semblant. Mais « made in China », il y a toujours un petit quelque chose en arrière de notre tête qui peut nous faire poser des questions. En plus, je ne dis pas ce que vous achetez dans des magasins, mais je dis peut-être côté application et tout ce qui est sur le web. Pour en parler, Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, est avec nous. C'est notre chroniqueur régulier. Salut Patrick.
Bon matin.
Là, moi, je te lançais ça sur Temu ce matin pour en jaser parce que ben, dans l'actualité, ça fait beaucoup jaser. On a cette... en fait, c'est une version chinoise, bon marché, un peu de la scrap, disons-le, là, d'Amazon. Et c'est pourquoi c'est aussi populaire, parce que ça coûte pas cher. On se laisse tenter par un bol en bois à salade à 2 $ mais finalement, on se paie d'une autre manière là, du côté de Temu. Finalement, en volant des données Internet à tous et chacun. Est-ce que le fait de se faire voler des données par Temu, par exemple, Patrick, c'est plus très important parce qu'on a l'impression de se faire voler des données un peu partout?
Non, c'est sûr que c'est pire. C'est pas nos amis, la Chine, comme tu dis, le gouvernement. Le problème avec la Chine, ce qu'on répète souvent quand on en discute ici, c'est que leur vision de l'espionnage et de leur guerre, finalement, n'est pas une guerre physique. C'est de prendre possession de tout ce qu'il y a dans tous les autres pays et de contrôler toutes les élections et toutes les choses comme ça. Fait que ça n'est un move de plus parce que sur leur application, quand quelque chose est vraiment pas cher, ça a été trouvé qu'ils sont prêts à perdre environ 40 $ par item parce que la vente des données qu'ils ramassent par en arrière vaut à peu près ça. Fait que si vous achetez un bol à 2 $ mais qu'en réalité, il vaut 45, ben pour eux, ils n'ont aucune perte en volant vos données.
Mais admettons qu'on achète plusieurs articles sur un mois. Est-ce que c'est une seule fois qu'ils réussissent à avoir des données ou il y a de la récolte d'informations supplémentaires selon la consommation d'Internet qu'on a fait, selon les images qu'on peut...
Exact, c'est tout. C'est vraiment tout. Puis là, c'est sûr qu'on n'a pas toute l'histoire complète, mais si vous fouillez sur le web, puis il y a plein d'histoires potentiellement vraies puis d'autres fausses, mais il y a de l'abus dans l'application de Temu. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites qui prouvent que les permissions sont beaucoup trop grandes, qui utilisent les autres applications installées sur le téléphone pour prendre d'autres données sur le téléphone. Ils peuvent récolter toutes les informations sur le téléphone aussi. Ça, beaucoup d'applications font ça. Pour ceux qui sont un peu plus techniques, ça vous tente de voir ce type de choses-là. Puis je dis pas que Temu le fait tout le temps, mais l'application DuckDuckGo, dans le fond, qui est un browser web là, de privacy, donc en fait pour la vie privée, ont une application à l'intérieur qui analyse tout le trafic des applications. Vous pouvez voir tout ce que les applications essaient de vous voler ou de vous prendre sans vous vraiment vous demander la permission. Puis c'est assez incroyable. Là. Vous ouvrez une application et il y a des centaines de données qui partent comme ça. Donc ça, c'est un des exemples comme ça. Ils sont capables vraiment d'aller chercher beaucoup, beaucoup de choses comme ça, ça c'est sûr. Puis, évidemment, de comprendre le concept de qui achète quoi, de voir ce que vous brasez, toutes les histoires de cookies, tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de données, évidemment. Mais là, la partie qui n'est pas trop discutée, c'est que vous achetez des objets faits en Chine. Ce qui est la problématique avec beaucoup, beaucoup d'électronique en Chine, c'est qu'ils vont installer des virus dedans par défaut. Ça fait que ça donne une belle opportunité à la Chine de distribuer beaucoup, beaucoup de cochonneries sur la planète.
Qu'est-ce que tu veux dire par les virus en achetant des objets?
Oui, c'est déjà reconnu là depuis des dizaines et des dizaines d'années. La Chine installe des virus dans les ordinateurs que vous achetez de la Chine. Si vous regardez les Lenovo, aux États-Unis, ils sont bannis au gouvernement à cause de ça. Des grandes marques de ce type-là. Fait que quand vous achetez, on a parlé des caméras, c'est X-Vision et autres, ben c'est le même concept. Ils font par exprès pour avoir des vulnérabilités dedans. C'est utilisé pour faire des attaques, etc. En Ukraine, les caméras de monsieur, madame, tout le monde ont été utilisées par la Russie puis l'Ukraine pour voir ce qui se passe sur le terrain. Ils piratent ces choses-là. Donc, en distribuant des objets électroniques potentiellement vulnérables ou avec des virus dedans, ben ça leur permet d'avoir des yeux partout sur tout le monde qu'ils utilisent.
Avec un grand ballon qui vole dans les airs aussi à certains endroits, une fois de temps en temps. C'est un petit peu moins subtil. Oui,
celle-là était drôle. Il y a eu une rumeur récemment, en plus, qu'il y en avait un autre, mais on n'a pas trop entendu ça.
J'ai même pas vu ça aller. Puis, normalement, je surveille de façon assidue l'actualité. Tu me surprends. Bon, c'est une rumeur, ça reste là. Dans l'article du Journal de Montréal aujourd'hui par rapport à Témis, on dit qu'il y a une avocate qui a déposé une demande d'autorisation pour exercer une action collective en cour supérieure. Où tous les Québécois qui ont déjà utilisé Temu ou qui ont eu des communications électroniques avec des utilisateurs de Temu sont inclus. Hey, c'est pas rien, là. Ça veut dire qu'on veut attirer l'attention sur ces choses-là. Normalement, quand c'est gratuit ou ça coûte pas cher, bien, vous êtes le produit, là. Ça, je le répète souvent en ondes. Mais le Temu, en fait, qui est soutenu par la Chine, serait particulièrement, comme disait ma grand-mère, friand de biométrie. C'est quoi ça? Bien, caractéristiques faciales, empreintes digitales, empreintes vocales, localisation géospatiale des utilisateurs. Hey, on s'entend que c'est pas rien, sachant que 100 millions de téléchargements de l'application en Amérique du Nord, en Europe. Là, on parle pas juste, mettons, ton nom, ton adresse, puis tu t'attends pas à avoir quelqu'un qui va venir cogner.
Non, beaucoup, là.
Hey, là, ça veut dire que ta petite caméra sur ton cellulaire peut-être peut enregistrer des choses qu'eux reçoivent?
Ils disent que non, évidemment, mais il y a beaucoup de versions qui ont été trouvées qui avaient ces permissions-là. Fait que là, ils ajustent, ils échangent, ils essayent de suivre le courant qui sont contre eux dans les nouvelles. Mais tu sais, on peut dévier vers TikTok. C'est 100% ça qu'ils font depuis toujours. Puis là, c'est pas gentil de parler de l'application vidéo de tous nos jeunes. Mais c'est ça, hein? C'est l'application qui vole toutes vos données biométriques, toutes vos communications, les liens entre les personnes. C'est utilisé pour faire de la reconnaissance faciale, fait qu'ils peuvent mettre ça dans les aéroports, développer des logiciels, vous retracer sur toutes les caméras qui diffusent partout sur la planète. Un fléau, là.
Mais ça sert à quoi? Puis on reviendra sur le scandale aux États-Unis en ce moment, en fait, ce qui fait parler par rapport à TikTok, parce que c'est super important, puis ils sont en avance sur nous, en fait, dans plein de législations, mais... puis de discussion, mais ça sert à quoi qu'il y ait peut-être nos visages, la reconnaissance faciale, savoir un peu de tout de nous en tant que citoyens qui finalement vivent un quotidien avec à bon train là, mais sans scandale, sans rien?
C'est la vision à long terme que je parlais. Fait que, si on regarde ce qui est plutôt récent là, dans les nouvelles voitures qui arrivent de la Chine qui vont coûter rien, mais qui vont être meilleures que les Tesla. Que super électronique, super avancé. La voiture, tu y parles, elle te répond 100 fois mieux que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, puis elle conduit tout seul, etc. Que toutes les données qu'il récupère, toutes les données de consommation visuelle et tout, permettent à eux de développer des technologies qu'on va trouver intéressantes. Jusque-là, c'est pas grave. C'est juste une technologie intéressante. Mais quand tu viens apporter une technologie à 10 fois moins cher le prix, tu fais, tu brises le marché. Là. C'est un disrupt complet du marché. Il va faire tomber le prix des États-Unis, du Canada, de l'Europe, etc. Puis eux permettent avec ça d'acheter de plus en plus de propriétés, de choses, de prendre le contrôle du pays. Fait que tu sais, c'est pas vraiment une guerre de dire je te tire dessus, là. Mm-hmm. Ils contrôlent l'économie. C'est avec toutes ces données-là, toutes ces choses-là. La Chine est reconnue, évidemment, pour voler tous les designs. Récemment, ils ont prouvé qu'ils ont volé des trucs de bioterroristes dans les labs du Canada avec des Chinois qui étaient dans ces laboratoires-là. Ils ont rapporté ça en Chine.
Les trucs de bioterrorisme dans les laboratoires au Canada.
Ouais, c'est le fun. Si vous lisez les nouvelles, il y a des laboratoires qui se sont fait voler des trucs sur des virus. Fait qu'eux, ils rapportent ça en Chine pour faire, évidemment, du bioterrorisme ou... de l'analyse quelconque.
Pour se préparer à être peut-être en contre-attaque si jamais.
Soit en contre-attaque, soit préparer des antivirus, peu importe c'est quoi, mais...
On peut-tu leur en vouloir, Patrick, d'être finalement... Ben, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'éthique nécessairement là-dedans. Mais on va se dire quand même qu'ils travaillent très fort pour protéger ce qu'est la Chine puis monter en puissance dans assurément une politique que nous, on favorise moins. Je veux dire, on est plutôt dans une démocratie puis... En tout cas, on essaie le mieux possible de la protéger, mais on peut être contre quelqu'un qui décide au sein de son pays de faire en sorte d'être les premiers dans tout. C'est pas notre vision politique, pas du tout, mais en même temps, avec leur vision, si on se met dans leur bottine et non dans notre éthique, pour eux, finalement, c'est juste de se protéger puis de s'assurer une pérennité.
Ben, dans ce sens-là, oui, mais dans l'autre sens, de tout voler, de tout répliquer, puis de faire des choses pour défaire les marchés hors de leur pays, c'est sûr que l'objectif, c'est de se propager, puis d'être numéro un partout, comme tu t'expliques. C'est pas la même chose que nous avec nos élections aux 4 ans, où ce que notre vision, c'est qu'on n'est pas capable de réparer nos vues. Là. C'est pas la même game pour tout. Ça fait que le jeu est pas pareil. C'est sûr qu'une dictature, tu peux aller faire ce que tu veux pendant des années. Ici, c'est difficile avec la démocratie, mais en même temps, démocratie ou pas, ça reste qu'on n'a aucune idée des enjeux. Puis on en a parlé un peu, la sécurité des gouvernements, des villes, etc. On n'est pas prêts, là. Mais eux sont prêts, puis ils le savent. Ah ouais. C'est le gouvernement américain qui détecte la Chine dans leur système critique, donc l'eau, l'électricité et tout. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient là. Puis au Québec, on a 2-3 personnes gros max qui parlent de sécurité dans nos villes, la différence est incroyable.
C'est comme si la Chine était. C'est comme si la Chine était présente dans. Ben là, peut-être que c'est déjà le cas s'ils l'ont fait aux États-Unis, mais dans tout notre système hydroélectrique, là, puis qui pourrait justement mener une attaque si jamais il y avait envie de ça ou encore on était contre eux, peu importe, parce qu'ils avaient ramassé des données, entre autres hydroélectriques. Pensez-y qu'on est en panne électrique pendant 3-4 jours, comment ça peut être complexe, puis ça peut être difficile. Mais parlons-en aux États-Unis parce qu'il y avait une menace d'interdiction de TikTok aux États-Unis. C'est pas rien, là. Le gouvernement fédéral voulait interdire l'utilisation sur les appareils de tout le monde ou presque. Bien sûr, ils l'ont fait sur les appareils officiels des fonctionnaires. Nous, on avait vu ça aussi pour nos élus, plein d'élus qui étaient sur TikTok qui ont décidé de quitter. Il y a Trump qui avait attiré mon attention au début du mois de mars en disant, moi, je suis contre une interdiction de TikTok aux États-Unis. Puis je me demandais si c'était pas une façon peut-être de ne pas brusquer la Chine puis de ne pas couper tous les liens.
C'est toutes des négociations, tu sais, à ce niveau-là. Elle est bloquée, cette application-là, va avoir des impacts sur plein d'autres négos qu'on ne voit pas par en arrière. Trump est allé dire qu'il veut bloquer les voitures qui arrivent de la Chine, qu'il va les taxer à 100%, fait qu'une voiture à 20 000 va coûter 40, fait que le monde ne les achètera pas. Et ça, c'est pour protéger notre économie, là. Mais ici, c'est presque la seule à parler de ça. Puis même ce qu'il y a dans les journaux, c'est à peine la base. Puis malheureusement, tu sais, tout ce qui est Temu puis TikTok qu'on parle là, ça fait des mois et des mois que la communauté en parle. Et que les médias, d'un, sont en retard, les gouvernements vont être encore plus en retard. Parce que là, on en parle dans les médias. D'ici un an, peut-être qu'ils vont se réveiller.
Oui, c'est pas très optimiste. Hein? Mais nous, c'est ça. On a parlé de TikTok auparavant sur le fait qu'effectivement, c'est une application chinoise, on valide de données et autres. Aux États-Unis, on pousse la note un peu. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé dans les derniers jours. Tu peux-tu nous expliquer, en fait?
Oui, il y aurait dû. Certaines personnes au niveau fédéral, puis là, évidemment, on ne sait pas si c'est de la manipulation du discours ou pas, mais qui disent que dans les discussions pour bannir ou faire vendre TikTok à une compagnie américaine pour que ça sorte de la Chine, que les données sont en arrière d'une clearance, excuse, top secret. Ça fait que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas en parler, mais ils essaient. Dans les médias, ils ont dit qu'ils aimeraient ça, que les données sortent publiquement, parce que c'est vraiment incroyablement dangereux ce qu'ils ont su envers ces entreprises-là qui veulent que ça vienne public pour que le monde réalise d'arrêter d'utiliser ces applications-là.
En gros, ils ont des informations importantes, sensibles, qu'ils souhaitent sortir au grand public parce qu'ils ont découvert justement les impacts qui sont bien au-delà d'un vol de données?
Oui, exact. Puis l'un des points les principaux qu'on parle depuis à peu près un an sur TikTok, peut-être un peu plus, c'est le fait il y en a deux. Il y en a un que toutes les images que vous mettez là-dessus, les vidéos, c'est utilisé pour la reconnaissance faciale, pour faire de la détection, etc., savoir qui vous êtes, vous habitez où, c'est faire un mapping complet de l'Europe, de l'Amérique, etc. Ça, c'est une chose. Mais le point avec TikTok, c'est que toute la donnée qui est poussée hors Chine est de la stupidité. Pour que tout le monde reste avec le concept de la dopamine, là, tout le monde reste jamais dans des vidéos innocents pour qu'ils fassent rien, pour rendre cette génération-là à faire moins que la génération d'avant. Versus, le contenu en Chine, c'est des maths, c'est des cours, c'est des trucs pour apprendre, c'est tout pour devenir meilleur. Fait qu'ils utilisent ça, un genre de psy-ops, pour vraiment contrôler le concept de ce que le monde pense et ce qu'ils font. C'est sûr que c'est pas du 100%, mais ça a une influence énorme.
Et nous, on n'est pas du tout là-dedans au Canada. Donc, les États-Unis pourraient nous surprendre avec une confession de rapport important par rapport à l'application, justement, dans les prochaines semaines. As-tu l'impression que ça va sortir au public ou ça ferait trop peur au public, puis on garde les données pour nous, puis on va plus sanctionner?
C'est une bonne question. Je pense que ça fait partie des négos. C'est sûr qu'en disant ça public, la Chine sait qu'ils ont dit ça public. Ça fait que ça peut avoir des importances à ce niveau-là. Puis comme je dis, c'est une négo avec une application, une compagnie. C'est peut-être un jeu pour une autre négociation en arrière qui est d'autres choses. On n'a vraiment aucune visibilité là-dedans. Là. Fait que ça, c'est dur à savoir, mais c'est sûr que ça brasse beaucoup.
Merci beaucoup, Patrick Mathieu, d'avoir été avec nous ce matin. On parlait de TikTok, entre autres, de Temu, qui finalement sont deux applications chinoises qui vont chercher beaucoup plus d'informations que seulement vos données personnelles requises normalement pour faire un achat sur un site Internet. On se reparle la semaine prochaine.
Yes, merci,
Madame. Salut, à la prochaine. Ouais, c'est toujours un peu inquiétant. Puis, je voyais que vous aviez beaucoup, beaucoup de commentaires sur Twitch, en fait. Mais, en fait, la recommandation normale là-dedans, c'est de ne pas utiliser ces applications-là. Je sais que ça titille un peu le titillage dans le sens où c'est des choses qui nous font rire, c'est du partage d'informations. Ça nous permet aussi d'être un peu plus connus ou se faire découvrir si jamais tu travailles dans le domaine public ou encore c'est de l'information intéressante. Là. Sur TikTok, il y a plein de gens qui nous donnent de l'information intéressante. Il n'y a pas juste du niaisage, mais c'est une application extrêmement populaire auprès des jeunes. Et même du côté des États-Unis, quand on regardait pour légiférer un peu le tout, bien, les lobbyistes, là, en fait, là, leurs enfants, c'est les meilleurs. En fait, les enfants de ceux qui sont élus au Congrès et qui travaillent justement sur le fait de mieux judiciariser le tout, de mieux encadrer le tout, sont les meilleurs lobbyistes pour que ça reste. C'est dans le téléphone de tout le monde ou presque, en fait, cette application-là. L'avez-vous, 88-971-1021, ou encore, est-ce que vous l'avez supprimé, ou encore vos enfants, est-ce qu'ils l'ont? Est-ce que vous êtes dans l'interdiction à votre enfant de le posséder? Est-ce que vous expliquez ça à vos enfants ou vous avez finalement passé droit là-dessus puis vous dites non, moi, ça ne m'importe pas? J'aimerais vraiment ça avoir vos commentaires, autant sur Twitch que par texto. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, lui. Sur nos ondes, du moins, Rémi Chassé, avant d'atterrir à Boulevard 102.1. Toujours dans l'heure CV, tranquillement, pas vite, ben l'heure s'écoule. C'était intéressant de vous lire pendant la chanson de Rémi Chassé, entre autres des gens qui disent « J'ai jamais eu TikTok, ni Temu, puis je l'ai interdit à mes enfants ». Ça a été extrêmement complexe, l'interdire à mes enfants, mais c'est quand j'ai pu expliquer le pourquoi qui, finalement, a fait en sorte que ben, ils ont compris, puis ils n'étaient pas en train de dire qu'on était les pires parents du monde. Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, j'ai jamais eu TikTok, j'ai pas eu Temu non plus. J'ai pas grand-chose, en fait. Juste Facebook que j'utilise moins que mes parents qui ont 74 ans. » Quelqu'un qui dit « J'aimerais ça savoir ce que le peuple chinois pense d'eux-mêmes, ils pensent en fait de leurs dirigeants. » Il y avait une belle conversation en ce moment sur Twitch, si vous voulez y aller. twitch.tv/blvd/fm, ça coûte rien. Puis c'est super intéressant de voir les opinions de tous et chacun pendant l'émission. TikTok, Snapchat, c'est interdit à la maison. Les deux pires applications, selon moi. Un parent qui nous écrit ceci. Je vous rappelle que sur Snapchat, puis je l'avais dit à Marceau pendant l'émission du midi, sur Snapchat, il y a vraiment quelque chose à vérifier avec vos enfants, c'est la géolocalisation. Puis ça a servi dans un meurtre, en fait, à Québec d'une jeune fille récemment, dans la dernière année. Mais bon, je dis pas que ça mène à des meurtres constamment. Là. Je dis juste que c'est un peu épeurant. Mais on peut savoir exactement où la personne se trouve, là, à la maison près. Et il faut désactiver. Bon, en tout cas, moi, je désactiverais ça au plus vite dans les applications de vos enfants. Puis j'expliquerai pourquoi aussi, pour pas qu'il aille le réactiver. Mais ça vient activer automatiquement qu'on a l'application sur notre cellulaire. Donc, il faut savoir que l'on doit la désactiver. Il faut savoir que ça existe pour le faire sur l'application. C'est très simple, aller dans les choses confidentielles, la petite roue, en fait, puis vous allez trouver comment le désactiver. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de très important à faire. Dans les nouvelles, il y a une réforme du droit de la famille, des nouvelles obligations pour les parents en union libre. Ça, c'est 11 ans après l'affaire Éric et Lola, rappelez-vous. Et là, on va de l'avant avec une réforme du droit de la famille. Ça va créer des nouvelles obligations pour les parents qui vivent en union libre. C'est un rapport qui a été remis en 2015, lors de Couillard là, au pouvoir, c'est le gouvernement Couillard qui avait refusé de s'attaquer à une question qui avait été jugée carrément explosive là, par un expert. Et le ministre Simon Jolin Barrette a déposé aujourd'hui un projet de loi. Et le projet de loi, il est intitulé « Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale ». C'est long, mais c'est clair. Et ça va créer des obligations pour, c'est ça, les parents qui ont un enfant né ou adopté avec l'adoption du projet de loi. Et ça va prévoir des dispositions similaires à celles qu'on connaît là, pour qui, en fait, qui sont applicables à un couple qui est marié. Et ça, ça change une grande donne. Là, je veux dire, on n'a pas nécessairement le nombre de mariages qu'on avait auparavant, mais on fonde des familles avec les gens qu'on aime. Et le fait de fonder une famille, ça implique automatiquement la constitution d'un patrimoine, il faut le dire. Un patrimoine d'union parentale, là, ça s'est fermé, c'est formé en fait de biens des conjoints, dont la résidence et autres. Puis maintenant, le Code civil va prévoir des règles applicables au partage de ce patrimoine-là dans le cas où l'union prendrait fin. Donc, si vous vous séparez puis vous n'êtes pas marié, il va y avoir de nouvelles dispositions. Les conjoints vont, entre autres, le pouvoir d'un commun accord, modifier leur contrat de partage de patrimoine ou s'y soustraire. Il y a beaucoup d'autres mesures qui sont prévues en cas de séparation. Finalement, on est allé rebrasser toutes les cartes et on doit expliquer en détail le projet de loi en conférence de presse à 11h aujourd'hui, donc dans 20 minutes. Mais c'est un gros chantier quand même gouvernemental. C'est quelque chose qui a été travaillé de fond en comble. On dit que c'est pas nécessairement facile à aller jouer dans tout ce qui est droit de la famille, là. Mais ça a été amorcé au début du premier mandat caquiste. Peut-être pour ça qu'on a vu un peu moins Simon Jolin Barrette. Mais l'année dernière, là, il avait fait adopter son projet de loi 12. Puis ça, c'est un projet de loi qui encadrait la grossesse pour autrui. Puis ben, cette fois-ci, on veut créer des obligations pour les parents qui ne sont pas mariés. Au Québec, c'est quand même 43 % des Québécois qui vivent en union libre. Donc, ça fait assurément partie de votre vie si jamais vous avez eu des enfants avec un conjoint ou une conjointe puis vous n'êtes pas mariés. Mais c'est une longue saga, là. Dans l'affaire Éric et Lola, rappelez-vous, en 2013, la Cour suprême avait jugé que le régime québécois d'union libre, ça contrevenait à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit l'égalité devant la loi. Puis il y avait le plus haut tribunal du pays qui avait toutefois laissé au gouvernement québécois le soin d'apporter des modifications dans le respect de la juridiction. On voulait, à cette époque-là, faire en sorte que l'homme d'affaires québécois milliardaire donne un peu plus à son ex-conjointe en union de fait. Puis après un peu moins de 10 ans de vie commune, là, Lola réclamait un partage du patrimoine, une pension alimentaire aussi. Puis ça lui avait été refusé parce qu'il n'y avait pas de contrat de mariage. Donc, le gouvernement Marois avait commandé un rapport. C'était très important là, pour jeter les bases sur une réforme du droit de la famille. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est comme ça qu'on en est venu à aujourd'hui, 11h, essayer de réformer le tout et en faire un point de presse. Et c'est aujourd'hui que ça a été déposé. Il y a eu une frappe policière à Québec. Il y a plusieurs membres des Hells Angels qui ont été arrêtés. Après la gang à Picturmel, on s'est penché sur les Hells Angels. Grosse frappe contre le trafic de stupéfiants. Là, ça a permis d'arrêter au moins une dizaine de personnes dans la grande région de Québec. Ça s'est fait ce matin. Donc, quelques membres en règle des Hells Angels. C'est 70 policiers de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Québec et de celui de Lévis qui ont été déployés pour faire cette frappe-là contre le crime organisé. Québec, secteur de Stoneham, de Saint-Étienne-des-Grès, Mauricie aussi, qui ont été visés. Donc, pas mal d'arrestations, comme je vous disais, c'est une dizaine. Il faut dire que, selon les informations de Québécois, Mario Banane-Auger, Marc-Marco Roberge, Christian Boucher, ferait partie de ces arrestations-là. Rappelez-vous, Banane, là, au mois de février dernier, Banane Auger s'était rendu là, en Europe pour essayer de régler le conflit entre le chef du Blood Family Mafia, Dave Picturmel, puis ça avait été sans succès. Puis dans le même mois, donc toujours en février, il y a un salon érotique qui était relié à Marco Roberge qui a été incendié à Beauport. Donc, puis Boucher, lui, c'était... Il était présumément à la tête d'un réseau de trafic de drogue qui œuvrait dans le secteur de Rivière-du-Loup. Puis ça, c'était au profit des Hells Angels. On avait su ça dans une arrestation en 2012. Alors voilà pourquoi ces hommes-là étaient visés. On aurait mis la main sur eux, mais on va voir un peu plus tard, on aura de l'information. Claude Villeneuve aussi, Claude Villeneuve, qui hésite à se porter candidat à la mairie de Québec. Ça m'a vraiment surpris ce matin. Il a dit que ça se pourrait qu'il n'y aille pas, tout simplement. Là. C'est le chef de l'opposition municipale. Il n'a pas fermé complètement la porte, mais il a dit que il réfléchissait parce que il est père de deux jeunes enfants, il hésite à se porter candidat à la mairie de Québec pour le scrutin 2025, puis il invite même des candidats potentiels à se manifester. Il dit « J'ai passé presque toute la nuit debout avec ma plus vieille qui a mal aux jambes parce qu'elle grandit trop vite. Je ne me verrais pas m'en aller dans le bureau du maire pour gérer la neige aujourd'hui. C'est difficile. C'est ça que Claude Villeneuve a dit, entre autres, là, le chef de Québec d'abord, dans une entrevue avec le Journal de Québec. On va la voir à l'émission, je pense, ce midi. Je vais aller vérifier tout de suite dans mes petits textos parce que des fois, il y a des choses qui se bookent pendant que je suis en onde. Mais oui, il va être là avec nous. Donc, M. Villeneuve sera avec nous dans Marceau midi. On va pouvoir avoir sa version des faits. Je suis quand même surprise. C'est un gars qui s'impliquait énormément, puis j'avais l'impression que c'était dans ses cartons, comme on dit. Je vous ramène à Stoneham. Il y a quelques années, ben, en même temps, c'est très près de nous, en août 2022. Rappelez-vous, il y a un jeune ressortissant marocain qui avait été assassiné. Bien, ça revient dans l'actualité, dans le soleil aujourd'hui. Kevin Prévost-Bouchard, qui a reconnu avoir tué ce jeune ressortissant marocain-là, pour voler un kilo de drogue. Donc, un kilo de drogue contre une vie. Puis le meurtre témoigne quand même d'un mépris de la vie humaine, on s'entend, là, qui a été motivé par l'appât du gain. C'est ce que, en cours, on a dit. Là, j'ai adoré cette phrase-là. Le meurtre témoigne d'un mépris de la vie humaine motivé par l'appât du gain. C'est un homme de 36 ans, alors qu'il est reconnu coupable du meurtre au deuxième degré du jeune, j'espère bien le dire, là, Ashraf Timoumi. 20 ans. Il avait été accusé d'abord du meurtre au premier degré, mais voilà, on est au deuxième degré en ce moment. Le 8 août 2022, Ashraf Timoumi, lui, il doit faire le chemin de Montréal à Québec pour livrer un kilo de cocaïne. Je dis pas que c'est un enfant de cœur, mais quand même, il méritait pas de se faire assassiner. Puis il se met en route autour de 8 heures après avoir vu sa conjointe. Il arrive à Québec, il rencontre Kevin Prévost-Bouchard pour livrer la drogue. Vers 13h34, bien là, la voiture de la victime puis celle de l'accusé se rendent sur le chemin des familles à Stoneham pour faire cette livraison-là à l'abri des regards. Puis Kevin Prévost-Bouchard sort du véhicule, tire sur la victime à 6 reprises. Puis après ça, bien, il quitte. Donc, Ashraf Timoumi reçoit ces balles-là à travers la vitre du conducteur. L'accusé vole le kilo de cocaïne puis quitte les lieux avec son complice Éric Guénette, je veux le nommer aussi, qui lui conduit le véhicule. Un peu plus tard, il y a un adolescent qui marche sur le chemin des familles qui fait, malheureusement pour lui, la découverte du corps qui a été criblé de balles. Puis bon, il prévient ses parents qui ont appelé les services d'urgence. Pour Kevin Prévost-Bouchard, celui qui a tiré, là, il y a une série d'antécédents criminels. Il est condamné à prison à perpétuité sans demande de libération conditionnelle avant 17 ans. C'est quand même très glacial comme meurtre pour un kilo de cocaïne. Et c'est ce que dit le procureur de la poursuite. Il dit « Ashraf a péri aux mains d'un individu glacial purement motivé par des intérêts personnels. Il a été assassiné de 6 projectiles gratuitement, froidement, à travers la vitre. » Je dis pas que faire de la livraison de cocaïne, c'est le meilleur des desseins, mais quand même, c'est effectivement très glacial. Puis les circonstances du crime, bien, c'est d'une brutalité sans nom. C'est ce qu'on a dit en cours, entre autres. Donc, un dossier qui s'est réglé, mais dont on aura un petit peu plus de détails plus tard. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées en lien avec la mort d'une fillette à Beauport. Ça aussi, ça fait l'actualité. C'est la police de Québec qui a arrêté 2 personnes en lien avec cette mort d'une fillette de 14 mois. C'est arrivé jeudi dernier à Beauport. Policiers, ambulanciers qui sont intervenus dans une garderie en milieu familial sur l'avenue Sainte-Thérèse. Il y avait un enfant qui était inconscient. Quand ils sont arrivés, ils ont tenté de réanimer l'enfant sans succès sur la petite. Elle fréquentait la garderie. Puis l'enfant a été transporté à l'hôpital. C'est là qu'on a constaté sa mort. Puis on avait ouvert une enquête immédiatement. Puis il y a 2 personnes qui ont été arrêtées lundi soir. Une femme qui s'appelle Jinwit Kiwangala Mubwaka. Et elle a comparu au palais de justice pour 2 accusations, dont celle voie de fait à l'endroit de la bambine qui aurait été commise entre novembre et mars. La femme a 25 ans, est aussi accusée du non-respect de sa promesse de comparution parce qu'elle n'est pas demeurée dans le district judiciaire de Québec entre le 24 et le 25 mars. Pour ce qui en est de l'homme, Josapha Mayuba Hendley, il a 30 ans, puis lui aussi est accusé de non-respect de conditions. C'est propriétaire de l'endroit où se trouvait la garderie, là, en milieu familial. C'est absolument atroce. Ils seront de retour en cours demain, là, après-midi. Puis la poursuite s'est opposée à leur remise en liberté, justement, parce qu'on n'a pas respecté des conditions, entre autres, là. Puis on indique que des accusations pourraient s'ajouter. C'est un service de garde qui était reconnu, là. Les responsables du service de garde qui étaient offerts dans cette résidence-là étaient reconnus par un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial. Ils devaient être en mesure de se conformer aux normes en matière de qualité de service qui étaient établies là-bas. Donc, je pense à tous les parents, en fait, qui avaient des enfants dans ce service de garde-là qui ont appris la terrible nouvelle, puis surtout aux enfants qui ont perdu leur petite fille. C'est absolument crève-cœur, honnêtement. Là. Je ne sais pas comment on se remet de ça. Finalement, on ne s'en remet pas nécessairement. Puis c'est un peu ce que j'entends souvent, tu sais, des parents qui cherchent une garderie. Dans le contexte de pénurie de garderie, de place en garderie, tu sais, des fois, il faut que tu fasses des choix qui n'auraient pas été tes premiers choix. Puis là, je dis pas ça face à cette garderie-là, mais admettons que tu aurais voulu une au préalable, puis ben tu n'es pas capable de placer ton enfant dans cette garderie-là, ben des fois, tu vas peut-être aller ailleurs où tu n'étais pas nécessairement très, très, très à l'aise au départ. Puis là, tu as eu des discussions, puis tu as réussi à faire confiance. Puis imaginez si une tragédie comme ça arrive. Toutes mes pensées sont avec ces parents-là. Il y a eu un incendie important sur l'avenue Mofis hier dans Limoilou. Ça a quand même demandé une bonne intervention des pompiers, au moins une trentaine. C'est autour de 16 heures qu'on a eu l'alarme. C'est un bâtiment de deux étages. Ça, c'est près du 1834 avenue Mofis. Et bien, c'est près de l'hôpital Enfant-Jésus pour vous placer, là. Il y avait des flammes. Ça a été très combatif, en fait, comme incendie. 35 pompiers qui ont été déployés. On a dû briser pas mal l'établissement. Il n'y a pas eu de blessés. Quelqu'un qui n'a pas voulu sortir tout de suite, qui a été blessé aux mains là, par le feu. Mais heureusement, la Croix-Rouge aussi est arrivée sur les lieux. On ignore encore la cause de l'incendie. Ce sera déterminé dans les prochaines heures. On est en enquête. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est maximum de 6 degrés. C'est de la pluie un peu partout sur le territoire de la capitale nationale. C'est 2 degrés en ce moment sur Québec et la grande région. Je vous remercie d'avoir été à l'émission. C'est déjà terminé. Marceau le midi s'en vient dans un instant. Je reste avec vous. Thomas Gauthier sera là aussi. Vous l'avez entendu ce matin, mais il reste avec nous pour l'heure du lunch. Yann est en grande, grande, grande forme cette semaine. On est content de l'avoir avec nous. Puis on a toute une émission, en fait. On est loadé. Bien content de vous accueillir pour cette heure de lunch. Restez là. Ne quittez pas plus qu'il faut, hein, parce que, justement, on a encore une belle programmation à vous offrir. Puis surtout, je dois vous dire, et j'attendais de terminer l'émission pour le faire, le fameux concours du printemps est lancé. C'est quoi ça? Bien, c'est de récompenser notre gang de tripeux, des tripeux de musique, des tripeux de sport, des tripeux tout simplement. Et super concours pour gâter nos auditeurs. Ça a débuté mardi. Mardi le 2 avril prochain. Puis ça, c'est grâce à Variété 2020. C'est notre partenaire pour faire des économies. C'est votre partenaire pour faire des économies encore aussi. Puis on va faire vivre un méchant beau trip. Digne des grands ados qu'on est tous ici, un peu à Boulevard 102.1. Et c'est le Rock and Sport qui recommence. Cette fois-ci, c'est Rock and Ball. On vous envoie en Californie. Salut à Carl qui est là. Mais on va vous faire vivre la Californie comme Carl, notre auditeur en ce moment. C'est quoi la partie rock? C'est 2 billets pour aller voir la tournée réunion de Blink 182. Au Chase Center. Le côté balle, c'est 2 billets pour les Blue Jays contre les Giants. C'est au Oracle Park. Ça va être complètement fou. Je suis jalouse. Et ça se passe à San Francisco en juillet prochain. Ça inclut le vol, l'hébergement, l'argent de poche. Et c'est super simple pour participer. Vous allez devoir entendre une chanson de Blink 182 à partir de mardi. Et vous allez aller inscrire l'heure de la diffusion au boulevard.fm. On n'est pas jaloux de pas pouvoir y aller avec vous. Ça, c'est complètement faux. Mais on va parler de tous les détails la semaine prochaine. Mais je vous le dis d'avance parce que ça va commencer raide, là. Après le congé de Pâques, dès mardi, quand il y a une toune de Blink 182, vous enregistrez l'heure et vous allez l'écrire sur le boulevard.fm. C'est ça qui est important. Puis je vous donne, j'espère, tout le courage d'être assez fort pour tout récupérer les indices, puis peut-être être le gagnant ou la gagnante, tout simplement. Et à tout de suite dans Marceau le midi, puis on termine ça avec Nick Éco-Pilote à Boulevard 102.1.